voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Qu'est-ce qui explique les tensions en cours en Tunisie 10 ans après la chute de Ben Ali et quelles sont les réponses possibles? C'est le débat du jour dans le grand rendez-vous, mais nous retrouvons d'abord notre invité décryptage en direct.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la Russie et enseignant à Sciences Po ici à Paris. L'opposant russe Alexei Navalny est en prison. Aussitôt rentré à Moscou le 17 janvier dernier, un tribunal l'avait condamné jusqu'à 30 jours de prison. Peut-il être libéré avant la fin de ces 30 jours de détention prononcée par la justice russe?
Oui, il faut craindre que non. De toute manière, évidemment, ce procès est complètement trafiqué. Il est évident que tout ceci est évidemment une vaste mascarade. On sait très bien que la justice russe n'est absolument pas indépendante et aux ordres du Kremlin. Alors c'est vrai que les États européens, notamment les États-Unis, demandent cette libération avec fermeté. Mais à partir du moment où le Kremlin, de toute manière, a décidé de ne rien entendre, ce ne serait pas un appel à partir du moment où il n'y a pas de sanctions de la part des dirigeants démocratiques qui pourraient changer malheureusement quoi que ce soit.
Et justement, à ce sujet, vous parliez de la pression de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré vendredi avoir eu un entretien téléphonique avec le président russe pour exiger, je cite, la libération immédiate d'Alexei Navalny. Et l'Union européenne menace également des sanctions la Russie. Est-ce que cette méthode qui n'a pas fait bouger Moscou dans le passé pourrait produire des résultats différents aujourd'hui?
Non, malheureusement non. On vient d'avoir les résultats aujourd'hui d'un conseil des ministres européens qui finalement n'ont pas décidé de sanctions, qui ont condamné évidemment cet emprisonnement. Mais malheureusement, tout ceci ne sert à rien. On sait que le haut représentant pour la politique de sécurité de l'Union européenne, Josep Borrell, va se rendre prochainement à Moscou. Mais là aussi, on s'est déjà aperçu que ce dialogue avec le régime de Poutine, on l'a tenté des centaines de fois. Et des centaines de fois, comme vous l'avez justement dit, pour rien. Tant qu'on n'a pas des sanctions qui sont véritablement fortes...
Mais vous parlez de sanctions, mais vous venez vous-même de reconnaître qu'au sein de l'Union européenne, elles sont difficiles. La réunion des ministres des Affaires étrangères d'aujourd'hui, il n'y a pas eu consensus. Comment faire bouger les choses?
Je pense que c'est là où, effectivement, on parle beaucoup d'Europe puissance, mais on s'aperçoit que dès qu'il s'agit de s'affronter à des régimes dictatoriaux, que ce soit la Russie ou d'ailleurs la Chine, en fait, c'est plutôt le plus petit dénominateur qui l'emporte. C'est donc, ça veut dire que, effectivement, il y a beaucoup d'États, et notamment, on voit l'Allemagne, qui veut poursuivre l'oléoduc qui le relie à la Russie, Nord Stream 2, qui ne veut pas entendre parler de sanctions qui freinent. On a des pays de l'Est qui ont une position beaucoup plus claire, notamment les États baltes et la Pologne.
La Hongrie aussi.
On n'a pas ce consensus.
J'ai parlé de la Hongrie aussi.
Oui, et la Hongrie aussi, la Hongrie qui a d'ailleurs acheté, vous savez, ce pseudo-vaccin Sputnik fabriqué par la Russie, qui finalement...
Contre les directives de l'Union européenne. Alors,
exactement, et qui ne respecte pas non plus l'état de droit. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une Europe divisée, et je pense que c'est un vrai problème.
Mais qui peut faire pression aujourd'hui sur le Kremlin? Est-ce que vous pensez que le nouveau président américain, Biden, peut avoir plus de chances d'avoir l'oreille de Moscou sur le cas Navalny?
Disons qu'il peut avoir une oreille si les États-Unis, comme d'ailleurs l'Europe, renforcent quand même leur arsenal, surtout sur le premier cercle de Vladimir Poutine. Vous savez, il y a autour de lui une série de ce qu'on appelle les siloviki, des gens qui viennent des services, qui se sont enrichis. Or, très souvent, ces gens-là ne sont pas directement visés par les sanctions. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire des sanctions unilatérales dans tous les sens. Il s'agit vraiment de viser des gens qui profitent finalement de ce système totalement corrompu. C'est ça qui peut évidemment tout à fait aider. Et puis ensuite, bien sûr, il y a ce fameux Nord Stream 2 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce pipeline, c'est l'oduc plutôt, qui relie l'Allemagne et la Russie. Beaucoup de gens demandent qu'il soit arrêté, y compris d'ailleurs en Allemagne, notamment les Verts allemands, une partie de la CDU. Et je crois que là aussi, on ne peut pas accepter de financer Gazprom qui va se servir de cet argent pour après refinancer l'État russe pour des opérations de déstabilisation. D'ailleurs, en Afrique aussi, on l'a vu, notamment en République centrafricaine.
Bon, où est également présente l'armée française, hein, les Français, où sont également présents les Français, aussi. Pas seulement les Russes.
Seulement, vous avez raison.
Voilà, Monsieur Tenzer, le nouveau président, qu'est-ce que je disais, je parlais plutôt de la stratégie, hein, de Alexei Navalny. Comment appréciez-vous sa stratégie de dénonciation des pratiques de corruption présumées et d'enrichissement illicite du président russe? Est-ce qu'elle peut, cette stratégie, déclencher un vrai déclic en Russie?
Oh ben déjà, elle a commencé à le déclencher, c'est-à-dire que vous avez l'empoisonnement de Navalny par les services spéciaux russes, plus ce nouveau film, plus cet emprisonnement arbitraire à la rentrée de Navalny en Russie, qui a montré un courage en acceptant de retourner en Russie, ça a mobilisé l'opinion. Vous avez eu des manifestations de plus de 100 villes en Russie.
Avec 2500 personnes arrêtées.
Oui, exactement. Mais ça veut dire que, vous savez, l'opinion publique russe, alors peut-être pas encore la majorité, se réveille, et notamment les jeunes. Il y a eu surtout, c'était frappant dans ces manifestations, beaucoup de gens qui n'avaient jamais manifesté auparavant. Eh bien, ceux-là, ils sont venus. Ils savent très bien qu'ils risquent effectivement ces arrestations, ils risquent les violences policières, mais ils viennent quand même.
Ils bravent la peur, selon vous.
Voilà, Navalny a acquis de ce fait une légitimité qu'il n'avait sans doute pas auparavant.
Merci à vous, Nicolas Tenzer, d'avoir été notre invité en direct dans ce grand rendez-vous sur Africa Radio.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir du climat social tendu en Tunisie. Des manifestations ont été enregistrées ces derniers jours dans le pays, de même que samedi dernier. Et nous avons trois invités. Firas Kefi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et activiste politique, vous êtes en ligne de Tunis. À Tunis également, il y a Abdelaziz Belkodja qui est écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête publiée aux éditions Apollonia. Bonsoir Monsieur Belkodja.
Bonsoir.
Bonsoir Monsieur Adel Tifi. Vous m'entendez, oui, Monsieur Tifi? Merci d'être.
Bonsoir, je vous entends. Merci pour l'invitation.
Merci d'être avec nous, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3, ici en France. Il faut écouter les jeunes, pas envoyer des policiers par milliers, ni police, ni islamistes. Le peuple veut la révolution. Ce sont là quelques propos scandés ces derniers jours par des manifestants qui se sont mobilisés dans plusieurs villes de la Tunisie. Samedi, je le disais, ils étaient encore nombreux à protester. Est-ce que, Firas, vous pouvez nous dire déjà quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu moins de tensions dans le pays, M. Kefi?
La tension continue, puisqu'on vient d'apprendre il y a une heure le décès, malheureusement, de Haik El-Rajdi, qui a été blessé à Sbit là, le 20 janvier pendant une manifestation par une bombe lacrymogène. Donc cette nouvelle va encore envenimer le climat qui est déjà très très tendu. Vous le rappeliez justement samedi, dans un contexte pandémique assez particulier, il y a eu près d'un millier de personnes à Tunis qui a fait une manifestation assez marquante. Donc le climat actuel, c'est un calme très très prudent. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres manifestations dans cette semaine ou pendant les semaines à venir.
Accentué par la mort du manifestant, vous le disiez.
Évidemment. Et demain, le gouvernement sera devant le Parlement pour un large remaniement ministériel qui est initié par Hichem Mechichi, qui va s'exprimer après justement les derniers événements de la semaine dernière. Donc on va entendre la réponse du gouvernement à la crise actuelle. Mais il n'est pas exclu que le mouvement continue.
Merci. Je ne sais pas si M. Belkodja, qui est également à Tunis, fait le même constat que vous, mais samedi, il y a certains médias tunisiens qui semblaient dire que la manifestation de samedi n'avait pas mobilisé grand monde et qu'elle semblait commencer à s'essouffler. Est-ce que vous partagez cette observation, M. Belkodja?
Oui, la manifestation, si ma mémoire est bonne, était organisée par la gauche tunisienne. Or, le problème, c'est que, vous savez, aujourd'hui, les partis sont vraiment rejetés surtout par les jeunes. En plus, la situation du pays, vous savez, le Covid et tout ça, ça n'encourage vraiment pas les gens à manifester, même s'il y avait, ça on ne le sait pas, des intentions de manifester d'un grand nombre. De toute façon, la situation ne le permet pas, mais...
Est-ce que la mort de ce manifestation dont parlait Adèle Tiffy tout à l'heure pourrait relancer cette mobilisation et la rendre encore plus forte dans les prochains jours? Ou pensez-vous peut-être que, avec les réponses attendues demain du Premier ministre, pourrait apaiser le climat?
Non, très très difficile. Les manifestations vont rester, ça va être peut-être un peu plus sporadique parce que les gens commencent à s'habituer, mais ça ne va pas s'arrêter parce que tout simplement la situation ne va pas changer. Le blocage politique est terrible. D'ailleurs, le président de la République tout à l'heure a passé un véritable savon au Premier ministre et au président de l'Assemblée. C'était assez impressionnant d'ailleurs, et il leur a parlé de l'inconstitutionnalité du remaniement ministériel. Mais bon, la vérité, c'est que le blocage institutionnel est terrible, c'est-à-dire ils peuvent parfaitement le Premier ministre comme le président de l'Assemblée se passer complètement de l'avis du président. C'est-à-dire que le choc est vraiment politique, ce sera un choc dans la rue. Ce qui se passe aujourd'hui dans la rue est vraiment la traduction de ce qui se passe dans les institutions.
Merci, Monsieur Belkodia. Monsieur Tiffy, vous êtes là?
Je suis là.
Voilà, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe. Alors, aidez-nous à comprendre l'histoire de ces derniers jours en Tunisie, je le disais, marquée par les manifestations. On sait que le pays est confronté à plusieurs crises, hein. La crise politique, la crise sociale, il y a le Covid. Mais qu'est-ce qui a réellement provoqué cette nouvelle mobilisation alors que le pays venait de commémorer plutôt dans le calme, en tout cas, c'est l'impression qu'on a eue, ou plutôt dans la discrétion, les 10 ans de la chute de Ben Ali le 14 janvier?
Justement, parce qu'il y a le côté symbolique des 10 ans, mais ce sont des manifestations qui reviennent chaque mois de décembre et chaque mois de janvier pour exprimer le désarroi de la jeunesse, sa méfiance vis-à-vis de la vie politique et de toute la classe politique, ça c'est vrai. Mais je reviendrai à un diagnostic que j'avais en fait évoqué avec vous lors d'un autre entretien. Pour moi, le problème, ça touche en fait à tout ce qu'on pourrait appeler la gestion des affaires publiques. Ça veut dire tout ce qui touche à l'économie, tout ce qui touche au chômage, tout ce qui touche au développement, tout ce qui
la précarité, accentuée aussi par le Covid.
Même la santé, l'enseignement et tout, en fait, ce sont des dossiers en berne. Parce que depuis 2 octobre 2011, la vie politique ne tourne pas autour de projets sur la gestion des affaires publiques, mais elle tourne autour de pouvoir. Qui avec qui peut tenir le pouvoir dans le sens de contrôle de l'État. Et c'est ce que la Tunisie avait vécu depuis depuis octobre. Je parle des premières élections d'octobre 2011. Parce que après le 14 janvier, la Tunisie avait vécu une année de passation de pouvoir. C'était dans le cadre de l'esprit de la loi, dans le cadre de la culture de l'État, avec la participation de la société civile et tout. Le problème, le premier échec des Tunisiens, c'était les premières élections où on avait des partis politiques, soit en 2011 avec Ennahda, soit en 2014 avec Appel de la Tunisie, ça veut dire Nida Tounes, avec le défunt Béji Caïd Sebsi. On a vu que la vie politique, elle tournait autour des alliances, qui avec qui et tout, au dépend de quoi? Au dépend de la finalisation de la transition démocratique, ça veut dire jusqu'à maintenant, la Tunisie n'a pas...
Donc vous nous dites que c'est le climat politique déclenché ces violences, cette montée en puissance des protestations en Tunisie ces derniers jours?
Bien sûr, quand je dis en fait que la vie politique, elle tourne autour de la question du pouvoir, ça veut dire tout ce qui concerne le quotidien du citoyen tunisien a été délaissé. L'enseignement, la santé, l'emploi, le développement, même le service municipal, partout il y a
le secteur social aussi, puisque on annonce par exemple la société de nationale de l'eau annonce des coupures de 2 jours à partir de demain pour des travaux, mais il y a aussi...
C'est pour ça en fait, que je dis que tout ce qui concerne la vie quotidienne du citoyen a été marginalisé. Il y a une grave crise économique actuellement en Tunisie, une grave crise financière. Donc, du coup, la jeunesse, elle en a marre de cette situation politique et elle veut dépasser autrement. Surtout qu'il ne faut pas oublier la question de la corruption politique. On a pas mal de députés actuellement qui siègent dans le Parlement, alors qu'ils n'ont aucune légitimité par
merci.
Rapport à la loi, et la Cour donc de finances vient de le confirmer.
Merci,
donc,
monsieur Belkodia.
Il y a une espèce de transgression des lois, et la jeunesse, elle dit, pourquoi pas moi aussi, je vais transgresser les lois.
On en a marre, on transgressait les lois et manifestait malgré le couvre-feu imposé pour faire face au Covid. Monsieur Kefi, Monsieur Belkodia vient de parler de mécontentement général, mais surtout de colère des populations et notamment des jeunes vis-à-vis de sa classe politique. Mais est-ce que cette classe politique-là aussi n'est pas un peu responsable de la montée de tensions, à cause de sa mauvaise gestion de ces manifestations? Est-ce que le gouvernement a bien géré les premières semaines de cette tension lorsqu'elles se sont déclenchées? Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations.
Oui. Plus d'un millier, selon les ONG comme BAUS, l'Avocat sans frontières. C'est des nombres que peut-être il faut revenir à des dizaines d'années pour trouver un nombre aussi important. La réponse sécuritaire n'était pas la bonne, bien évidemment, et c'est ce que les manifestants disent, mais les manifestants disent aussi que cette classe politique, comme l'a souligné M. Tiffy, justement, n'a pas réellement géré et ouvert les dossiers de l'éducation, du secteur public, de la justice sociale aujourd'hui qui est réellement absente. Donc, et on sent que le gouvernement est déconnecté de cette réalité-là. Le dernier discours de Hichem Mechichi pour annoncer, pour parler justement du 14 janvier, etc.
Quand vous dites que le gouvernement est déconnecté, est-ce qu'il a les moyens de faire face à cette demande sociale multiforme? Il y a beaucoup de demandes. Est-ce que le gouvernement a réellement les moyens aujourd'hui d'y faire face?
Il peut les avoir. Il faut savoir que la Tunisie perd chaque année 25 milliards de dinars, qui est presque la moitié de son budget annuel en évasion fiscale. Le dossier fiscal en Tunisie n'a pas été réellement résolu par les différents gouvernements. Et c'est ça l'esprit de ce mécontentement-là, c'est de se dire que cette classe politique, de toutes les manières, vous n'allez jamais vous occuper de ces dossiers qui nous concernent tous les jours. Donc on veut votre départ pour cette raison-là. Vous ne nous représentez plus et il est grand temps de soit vous travaillez réellement pour améliorer notre vie ou alors laisser la place aux jeunes.
Merci beaucoup, Monsieur Tiffy. Monsieur Kefi. On va marquer une pause, messieurs. Je vous retrouve dans un instant. Nous allons poursuivre le débat sur ce climat social très tendu en Tunisie.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment expliquer les tensions en cours en Tunisie 10 ans après la chute de Ben Ali et quelles sont les réponses possibles? Nous en débattons ce soir avec 3 invités. Abdel Tiffy, qui est historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3. Abdelaziz Belkodia, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête publiée aux éditions Apollinat à Tunis. Firas Kefi, journaliste et activiste politique à Tunis, la capitale tunisienne. Messieurs, je voudrais qu'on parle un peu de ces causes lointaines de la crise. Vous avez évoqué, monsieur Tiffy, la classe politique qui serait le responsable principal de cette situation. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les Tunisiens manquent un peu de patience? On sait quand même que la crise économique que connaît la Tunisie aujourd'hui, elle-même est consécutive à une crise sécuritaire avec les multiples attaques qui ont contribué à faire fuir les touristes. Ensuite, aujourd'hui, il y a cette deuxième vague de Covid qui est difficile à gérer. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que les Tunisiens manquent un peu de patience?
C'est pas question de patience. Le problème, c'est que le Tunisien, d'ailleurs, ils étaient très patients depuis 10 ans, la situation économique, financière, ça veut dire, je parle des finances publiques, et la situation se dégrade. Le pouvoir d'achat se dégrade depuis 2010, depuis 2011. Ça, on le remarque. En fait, le problème, c'est que les Tunisiens étaient patients. Mais le problème, moi, je pense le plus grave, c'est qu'il n'y a pas un bout de lumière, quelque chose, de la lumière au bout du tunnel. Les Tunisiens sont très pessimistes, et ça, même dans les sondages. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est que la situation politique actuellement ne permet aucune gestion, aucune bonne gestion des affaires publiques, des économies, de donner des projets pour les jeunes et tout. Je suis conscient que l'État n'a plus d'argent, c'est un pays surendetté actuellement et tout, ça on peut le comprendre. Mais le malheur, c'est qu'il n'y a même pas d'idées et de projets. Toute la vie politique, surtout après 2019, là, les dernières élections, ça tourne autour de qui a le pouvoir. Sachant qu'aujourd'hui, la situation politique s'est dégradée aussi, vous savez qu'il y a aussi un conflit entre ce qu'appellent les gens les trois présidents, mais d'après la constitution tunisienne, il n'y a que trois présidents, le président de la République, le chef du gouvernement et le Parlement. Maintenant, avec Rached Ghannouchi, leader de Nahda, il s'est imposé comme une institution de pouvoir, et actuellement en Tunisie, on voit qu'il y a comme une guerre entre une alliance entre le chef du gouvernement et le chef donc le président du Parlement contre le président Kais Saied. Et aujourd'hui, il va avoir même un conseil de sécurité dirigé par M. Kais Saied, le président de la République, et qui est vraiment, ça se voit qu'il est contre ce gouvernement. Et apparemment, il a dit que le remaniement ministériel qui va avoir lieu d'ici quelques jours ne sera pas constitutionnel. Donc on est dans une situation qui n'a rien à voir avec la réalité du vécu tunisien. Pour vous dire, là ce sont des dernières informations que je suis en train de vous donner, pour vous donner un exemple sur la vie politique, comment elle est en décalage par rapport à la réalité socio-économique de la Tunisie.
Monsieur Tufi, merci. Monsieur Belkodia, est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord quand Monsieur Tufi semble mettre tout sur le dos de la classe politique, que cette crise aujourd'hui s'exprime par des manifestations des jeunes depuis des semaines, est simplement le fait de la classe politique?
Absolument. Je suis d'accord avec tout ce que dit M. Fifi. En effet, il y a une pauvreté intellectuelle au niveau politique qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire, vous savez, le minimum politique, c'est-à-dire, avant de choisir ses ministres, par exemple, leur demander qu'est-ce qu'ils ont comme vision de leur département, comment est-ce qu'ils comptent sauver leur département de la faillite. Ces questions si simples que tout le monde se pose. Hein. Vous savez, un jour, je voulais en savoir plus, j'ai demandé à un ministre ami, je lui ai dit, écoute, franchement, j'aimerais savoir comment tu as été nommé. Je lui ai dit, est-ce que le chef du gouvernement, c'était pas celui-là, hein, c'était il y a quelques années, est-ce que le chef du gouvernement t'a demandé quelle était ta vision du pays, de ton département? Et bien ce ministre s'est mis à rire. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, écoute, c'est bien pire que ce que tu penses. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, on m'a proposé un ministère le matin et un autre l'après-midi. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun projet. Il n'y a rien que, comme l'a dit M. Sifi, c'est-à-dire rester...
On ne choisit pas des personnes compétentes pour diriger les départements ministériels.
C'est-à-dire, même s'il y a des gens compétents en Tunisie, même s'il y a certainement aussi des gens compétents dans le gouvernement, le problème c'est qu'on ne met pas en avant, un, la vision du travail qu'il y a à faire, deux, quelles sont les réformes à appliquer, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec un gouvernement qui n'a aucune volonté politique exprimée, tout ça avec une administration qui a beaucoup de mauvaises volontés, et automatiquement, il n'y a ni objectif, ni moyen d'atteindre ces objectifs. Et c'est pour ça que, comme l'a dit M. Sifi tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, les jeunes ont été très patients, toute la population a été très patiente, et maintenant, on se dirige vers une situation qui est quand même tragique, parce que aujourd'hui, le pays est entre le croissant et la banane. Hein.
Merci, Monsieur Belkodia. Monsieur Kefi, Monsieur Belkodia vient de parler d'une situation tragique. La crise déclenchée il y a quelques semaines risque d'aller dans un sens beaucoup plus difficile, puisque l'Union générale des étudiants de Tunisie a annoncé ce lundi qu'elle boycottait la rentrée universitaire qui était prévue aujourd'hui et revendique la libération des étudiants arrêtés lors des mouvements de protestation. Et il y a même une menace carrément d'année blanche, indépendamment de la crise sécuritaire.
C'est vrai, ce communiqué est paru aujourd'hui par l'UGET, l'Union des étudiants de gauche. Donc, ce qui traduit un peu, voilà, le climat de désespoir de ces jeunes et de ces étudiants qui eux du coup sont les bébés de la révolution, parce que le 14 janvier ils étaient encore peut-être enfants et réalisent 10 ans après à leur majorité, à leur entrée à la fac, que la situation sociale en Tunisie est catastrophique, que pour obtenir un emploi, c'est une galère, c'est une très très grande galère pour chaque étudiant. Donc c'est dans la logique, à la limite des choses, que ce mouvement aille plus loin dans ce sens-là.
Mais si finalement il y a année blanche, comme le redoutent certains syndicalistes, et l'UGET qui dit qu'elle va dénoncer, qu'elle va boycotter la reprise des cours, alors même que les autorités assurent que les mesures ont été mises en place pour protéger les étudiants de Covid. En fait, l'UGET dit que l'UGET annonce qu'elle boycottera la rentrée, non pas à cause du Covid, mais pour demander la libération de leurs camarades arrêtés. Mais finalement, à qui profite une éventuelle année blanche ? Est-ce que ce ne sont pas les étudiants qui ont tout à perdre si effectivement il n'y avait pas cours cette année en raison justement de cette tension sociale?
C'est tout à fait normal que personne ne souhaite finalement qu'il y ait année blanche, mais ce communiqué traduit un peu une position politique qui est encore plus radicale que la précédente pour ce qui est de l'UGET. Je pense que c'est un appel, plus un cri d'alarme qu'une volonté peut-être réelle ou une capacité peut-être de fédérer autant dans les universités tunisiennes pour avoir réellement une année blanche, mais un vrai signal d'alarme pour dire voilà, les arrestations, la réponse sécuritaire n'est pas la bonne. Il faut ouvrir un dialogue et je reviens sur le terrain politique justement où une initiative de dialogue national a été initiée par l'UGTT, le grand syndicat tunisien, et le président tunisien y était favorable. Ce dialogue national ne se fait toujours pas, or qu'il est vraiment très très urgent de le commencer et d'exposer les réels problèmes. Et ce dialogue-là doit aussi fédérer toutes les forces politiques qui sont, comme l'ont expliqué mes amis, dues à une déconnexion de cette classe politique
de la réalité,
de la réalité et qui sont occupées sur des problèmes qui ne concernent pas les Tunisiens. Donc c'est un cri de désespoir qui arrive par des personnes qui ont vécu et qui sont victimes d'un système qui venait de très loin et de la mauvaise gestion des 10 dernières années qui a fait ce contexte explosif.
Merci. Monsieur Tifi, vous tapez sur le gouvernement, accusé d'être incapable de répondre aux difficultés et aux appels de la jeunesse et des Tunisiens. Mais je parlais tout à l'heure de cette coupure d'eau qui est prévue pour 2 jours à partir de demain pour, selon la société, maintenir les équipements. La société explique, par exemple, que pendant 2 ans, on a gelé toute augmentation, on a empêché toute augmentation et du coup, elle n'a pas eu les moyens d'entretenir les infrastructures, les équipements pour assurer une bonne qualité de d'eau et de la distribution d'eau. C'est ce que dit la SONEDE. Est-ce que ce type de mesure ne démontre pas que le gouvernement essaye quand même, tant bien que mal, de répondre aux aspirations sociales et pense au pouvoir d'achat des Tunisiens?
Là, vous me renvoyez à une situation qui est une situation un peu critique, et c'est la situation des entreprises publiques. tels que la SONED, donc chargée par la distribution de l'eau, la STEG, donc pour l'électricité, et pas mal d'autres sociétés, surtout publiques, ça veut dire des entreprises publiques, surtout du transport. Et donc ce sont des entreprises qui sont dans une situation très très difficile financièrement. Le problème, c'est que ce gouvernement n'a aucune vision. Il faut rappeler que le choix donc de ce...
Mais en gelant toute augmentation, le gouvernement voulait effectivement éviter
Pas le gouvernement. Depuis la révolution, rien n'a changé.
De réduire le pouvoir d'achat des citoyens, des Tunisiens.
Oui, mais ça, ils ne peuvent pas augmenter parce que le pouvoir d'achat est déjà vraiment à reculer beaucoup. Il faut voir aussi la dévaluation du dinar tunisien. La situation sociale, le pouvoir d'achat, donc, ne permet pas l'augmentation ni de l'eau ni de l'électricité. Ça, on le sait. Mais en même temps, et donc, ces entreprises publiques vivent dans une situation de crise financière. C'est l'État qui injecte de temps en temps, en fait, voilà, ça ne veut pas dire que ce sont des sociétés à privatiser ou quoi que ce soit. Mais le gouvernement, même dans les secteurs stratégiques, je ne parle pas que de ce gouvernement, hein, je parle depuis 2010, ce sont des sujets qui n'ont jamais été déposés, plutôt posés autour d'un débat public et tout. Pourquoi ? Je reviens parce que toutes les formes de la gestion des affaires publiques, y compris l'eau, les déchets, l'emploi, tout ce que vous voulez, l'enseignement et tout, ne font pas priorité de la classe gouvernante. Je vous ai donné un exemple. Maintenant, vous savez que le chef de gouvernement, M. Michichi, a été désigné par le président à la dernière minute. C'est un technocrate qui n'a aucune culture politique. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de rester au poste de Premier ministre. Donc, du coup, il s'est allié avec le parti Nahda, avec un autre parti.
Monsieur Belkodia vient de dire que les ministres ne sont pas à leur place. Certains ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais et vous reprochez, le président, d'avoir nommé un technocrate comme chef de gouvernement.
L'idée de technocrate qui a été désigné, il n'y a pas de problème. Mais un technocrate, quand même, qui a le sens de la gestion des affaires publiques. Ce n'est pas le cas. Le chef du gouvernement actuel, ce qui l'intéresse apparemment, c'est de rester chef de gouvernement. Donc du coup, il s'est allié à quelques partis politiques qui ont des dossiers lourds derrière eux, tels que le mouvement Nahda islamiste, tels que l'alliance Al-Karama, qui est une alliance très rigoriste, très extrémiste islamiste, et aussi l'autre parti qui s'appelle Cœur de la Tunisie, Qalb Tounes, qui a été accusé par pas mal de médias et tout, d'être à la tête de la corruption. Donc c'est ça le problème. Donc du coup, quand on choisit des ministres, c'est pas sur la base de la compétence, mais sur la base de l'allégeance et de l'alliance. Est-ce que vous êtes avec nous ou non ? Actuellement, la Tunisie, la politique, elle tourne autour de dossiers. Carrément, si tu n'es pas avec moi, je peux faire fonctionner mon réseau au niveau de la justice et te casser politiquement.
Merci,
donc,
monsieur.
Donc, voilà la situation actuelle en Tunisie. Donc, du coup, la jeunesse, l'enseignement, tout passe à côté.
Merci, monsieur Tiffy. On marque la dernière pause et on se retrouve pour conclure ce débat sur le climat social qui est en ébullition depuis quelques jours en Tunisie.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite du grand rendez-vous sur les tensions sociales en cours en Tunisie avec nos trois invités. Firas Kefi, journaliste et activiste politique qui est en ligne de Tunis. Adèle Tiffy, qui est historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3, ici en France. Et enfin, Abdelaziz Belkodia, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête publiée aux éditions Apollonia. Il est également à Tunis. Alors, je voudrais m'adresser à vous, monsieur Kefi. On attend demain le Premier ministre qui va s'exprimer sur cette tension. Qu'est-ce que vous attendez de son discours ? Qu'est-ce que vous attendez comme réponse du chef du gouvernement à cet appel de la jeunesse tunisienne ? Allô ? Je commence par vous, monsieur Kefi.
Oui, je vous écoute. J'ai entendu la question.
Allez-y, s'il vous plaît.
Je voulais dire que... Je pense que demain, il va essayer de calmer un peu le jeu.
le discours de la, son tout dernier discours a été très très mal perçu parce que il y avait une dualité de nous vous comprenons, nous l'État, nous le gouvernement et vous les jeunes. Il s'est mis en marge de la jeunesse qui conteste très tôt et des catégories qui sont les plus précaires. Il faudrait s'attendre à ce qu'il leur parle, qu'il y ait des annonces concrètes. C'est quelque chose qu'on reproche énormément au gouvernement.
Quel type d'annonces concrètes vous espérez demain, M. Kefi, qui puisse être une sorte de « oui, le gouvernement a enfin compris ce que veut la jeunesse tunisienne et la société tunisienne ».
Ah, il faudrait peut-être 2 ou 3 jours de discours pour dire réellement s'il avait compris ou pas, mais pour le contexte peut-être des aides sociales, destinées peut-être aux jeunes, aux plus précaires, parce que la colère est aussi partie des étudiants, mais aussi dans les quartiers les plus précarisés, notamment dans le Grand Tunis, dans la banlieue de Tunis. Donc il faut répondre à ce besoin-là. Comme le rappelait Monsieur le Tifi tout à l'heure, l'inflation a explosé depuis des années, le coût de la vie aujourd'hui en Tunisie est extrêmement exorbitant. Il faudrait attendre des annonces économiques, qu'il y ait peut-être aussi des annonces au niveau de la crise pandémique, une vision justement des mois à venir pour montrer réellement où est-ce que ce gouvernement va, parce que depuis son arrivée, personne n'arrive à déceler sa direction politique, quelle idéologie ou quel programme il veut prôner. C'est une occasion demain de peut-être remettre un peu les pendules à l'heure. Mais ce chef de gouvernement a tellement déçu que peut-être tout le monde ne sera pas content à la fin.
Merci beaucoup. Et vous, M. Belkodia, quel type de mesures peuvent contribuer à apaiser le climat et faire en sorte que les jeunes puissent quitter la rue et peut-être avoir à nouveau de l'espoir, de la confiance en le gouvernement tunisien?
Il y a énormément de mesures à décider, il y a énormément de choses à faire, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui sont en attente à cause de l'administration, qui les bloque. Il y a, vous savez, après le 14 janvier, il y a eu une chasse aux sorcières et donc la plupart des gens qui étaient dans la haute administration depuis refusent de prendre des initiatives parce qu'ils ont peur des conséquences juridiques. Donc c'est cet esprit aujourd'hui qui habille l'administration tunisienne. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer ça avec une nouvelle vision, c'est-à-dire lancer pourquoi pas une politique de grands travaux. Vous savez que la Tunisie manque énormément d'équipements.
Mais est-ce que dans un contexte où la deuxième vague fait beaucoup de victimes, le gouvernement a les moyens aujourd'hui d'investir sur les infrastructures alors que le pays manque de respirateurs, manque de structures adaptées pour prendre en charge les malades de Covid-19? Est-ce que c'est vraiment le moment de s'attendre à des annonces allant dans ce sens?
Vous savez, le pays manque surtout d'idées, d'un esprit positif et de volonté politique. C'est de ça qu'il manque. Au lieu de gérer véritablement les problèmes du pays, on en est toujours là à gérer des questions politiques, à cause bien sûr d'une constitution qui n'est pas très adaptée, mais ce n'est pas véritablement le problème. Pour moi, c'est surtout une question...
Mais quand je vous écoute, M. Belkodia, est-ce qu'il ne faut peut-être pas organiser des élections anticipées et élire de nouvelles personnes pour réellement prendre en charge? Parce que vous tous, je vous entends parler de cette classe politique, d'après vous, irresponsable, incapable de répondre aux problèmes sociaux que posent les jeunes et les Tunisiens. Est-ce que finalement, il ne faut pas organiser des élections anticipées avec l'espoir qu'on voit une majorité claire se dégager et être responsable de la gestion du pays?
Oui, ce serait vraiment une solution. Mais avant, il y a les questions fondamentales qu'il faut poser. Ce sont celles du régime lui-même, du mode de scrutin, sans toucher la Constitution, de toute façon. La question du mode de scrutin est essentielle. Pourquoi ? Parce que le mode de scrutin, aujourd'hui, aboutit à une coalition de partis automatiquement. Aucun parti ne peut être majoritaire, donc automatiquement, la responsabilité est diluée et il ne se passe rien dans le pays.
Merci.
Donc, avant... qu'il y ait des élections, il faut absolument parler des réformes nécessaires pour que ces élections puissent aboutir à quelque chose de positif.
Merci beaucoup. Monsieur Tiffy, vous avez confiance au gouvernement tunisien que peut-être il peut effectivement avoir des annonces fortes qui fassent que les jeunes et les Tunisiens puissent avoir à nouveau confiance et peut-être quitter les rues?
Non, je ne pense pas. C'est d'ailleurs, la première chose, c'est que le chef du gouvernement donc a donné une allocation. Donc, il a dit clairement que ce sont comme des voyous. Et voilà. Donc, il a brandé donc la main forte. Et ça, c'est d'une part. Et il s'est déjà exprimé.
Ça, c'était peut-être avant, mais le avant, fait oui. Demain, on l'attend pour ces annonces.
Oui,
est-ce que vous
voir.
Avez espoir?
Demain, on va voir. Demain, on va voir, mais il y a aussi question de crédibilité, parce que c'est un gouvernement qui, dont les supports politiques, ça veut dire les trois partis que j'avais cités, qui sont connus pour la corruption et tout, n'ont rien à voir avec la gestion des affaires publiques.
Oui, monsieur Tiffy, vous l'avez longuement dit, cette irresponsabilité, oui, voilà. Cette incapacité de la classe politique, mais n'empêche que c'est elle qui est là, et c'est à elle que la jeunesse tunisienne s'adresse, c'est à elle que s'adressent toutes ces demandes de la société tunisienne. Qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse pour pouvoir sortir le pays de ce climat social tendu sur tous les fronts?
Voilà. Politiquement, il faut un gouvernement neutre de toutes les alliances politiques.
Parce Donc que il faut organiser des élections anticipées?
Et pourquoi pas et préparer des élections anticipées, mais avant cela, comme l'a dit mon ami M. Bekodja, il y a des choses à revoir, parce que le mode de scrutin actuel ne permet pas d'avoir une majorité. Le problème, c'est que le mouvement Nahda, qui est en régression dans les sondages, ils ne veulent pas changer. Donc, si jamais on va se baser sur le Parlement pour qu'il change le code électoral, ça ne va pas être possible. Et d'où l'impasse actuelle de la Tunisie.
Ça que faut-il faire, donc?
Il faut imposer un dialogue national avec la participation des organisations nationales, comme le quartet du prix Nobel et tout, pour imposer une révision, pour imposer un nouveau mode électoral qui permet à la Tunisie d'avoir une majorité. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, c'est pas suffisant. Le plus important, c'est l'efficacité des lois qui gèrent la vie politique en Tunisie. Dernièrement, la Cour des comptes a donné un rapport catastrophique sur les élections de 2019 avec une remise en cause de quelques partis politiques qui
Merci.
Sont majoritaires actuellement. Si jamais la loi la justice n'est pas valable en Tunisie, ça ne sert à rien de changer quoi que ce soit.
Merci beaucoup à vous, M. Abdelaziz Belkodja, écrivain, co-auteur de l'ouvrage 14 janvier, l'enquête, publié aux éditions Apollonia, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, Abdel Tiffy, historien et professeur de l'histoire contemporaine du monde arabe moderne à l'Université Paris 3. Et enfin, Firas Kefi, journaliste et activiste politique à Tunis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.